explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'un des photographes animaliers les plus brillants de sa génération. Particulièrement attiré par les paysages enneigés, il a réalisé de somptueux clichés sur lesquels la beauté d'animaux sauvages saisis en plein mouvement se détache sur fond immaculé. Pour obtenir ces images sublimes, notre photographe Vincent Munier peut rester immobile pendant de très longues heures d'affût. Il a photographié sous toutes les latitudes, des bœufs musqués du Grand Nord aux manchots de l'Antarctique en passant par le lynx de ses Vosges natales. Mais ces dernières années, un animal en particulier occupait ses pensées et la plupart de ses voyages, la panthère des neiges. À plusieurs reprises, il est parti sur ses traces au cœur des hauts plateaux tibétains. Un hiver, il a proposé à Sylvain Tesson de l'accompagner dans sa quête. C'est ainsi que le photographe naturaliste a initié l'écrivain voyageur à l'art délicat de l'affût et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes qui se dissimulent dans le paysage. Cette aventure a donné lieu à un très beau film intitulé « La panthère des neiges » qui sortira mercredi prochain au cinéma. L'occasion pour nous de partir cet après-midi avec Vincent Munier au cœur de l'Himalaya, là où rôde le fantomatique félin. Et en fin d'émission, nous changerons de montagne et d'animal. Le réalisateur Rémi Masseglia nous racontera comment il est parti avec sa fille Naïs d'à peine un an sur les traces du loup dans le parc du Mercantour. Voilà pour le programme de cette émission réalisée par Stéphanie Texier et préparé par Claire Tesser, avec à la technique Kevin Pelot. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Ah, le soleil est chaud.
On a l'impression qu'il n'y a rien, c'est un silence, mais non, finalement, t'as plein de petites choses qui... T'as des espoirs qui arrivent ou pas, tu peux... Bon, la panthère, c'est toujours le Graal, mais il y a plein d'autres espèces. Il faut absolument qu'on trouve un endroit où dormir. Ici, pour vivre tout ça.
Tu sais, ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de plans différents. Là, comme une place d'affût, c'est vraiment idéal.
Propulser la panthère, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois des reliefs et des étendues où pèsent
les barrages.
Les abiures.
Ouais, exactement. Une alternance entre les prairies et ces barres rocheuses.
Ouais.
Tout se réveille tout doucement après une nuit très froide. C'est magique.
Bonjour Vincent Munier.
Bonjour.
C'était un extrait du film La Panthère des Neiges, réalisé par Marie-Amy Guay, qui sort ce mercredi au cinéma. Alors il faut vous imaginer, hein, avec Sylvain Tesson, vous rampez dans la neige devant vous, ce vaste territoire dans lequel vous espérez réussir à entrevoir la fameuse Panthère des Neiges. Vous étiez où exactement ?
Alors nous étions dans le Xinghai, c'est sur ces hauts plateaux, en effet, pas très loin du Changtang. On a les monts Kunlun, qui sont ces grandes montagnes aussi très hautes, qui culminent à plus de 6000 mètres.
À l'est du Tibet?
À l'est du Tibet, au sud-sud-est du Tibet.
Ouais. Et pour le décor, alors, qu'est-ce que vous aviez devant les yeux?
Alors, c'est très minéral, c'est assez steppique. La difficulté, c'est vrai qu'on arrive, on est sur un plateau, donc on est tout de suite à 4300 mètres, avec des sommets qui culminent à 6000. Donc, c'était ça qui était pas évident, et on devait avoir une adaptation assez rapide de l'altitude. Ouais. Puis c'est juste fabuleux parce que là-bas on a donc des espèces qui sont adaptées à cette hostilité et qui sont juste fascinantes et qu'on connaît très peu.
Ouais. C'est vraiment parce que vous étiez fasciné par cette panthère des neiges qui vit là que vous êtes allé explorer ces contrées?
Ah, c'est un peu un prétexte. Au départ, j'imaginais pas la voir. Franchement, c'est le yak sauvage qui m'a emmené là-bas.
Ouais.
Cet animal un peu totémique qui a un écho de la période un peu glaciaire qui traverse les âges, moi je trouve ça fascinant, un peu à l'image du bœuf musqué que j'ai été photographié aussi en Arctique, et c'est lui qui m'a emmené au Tibet déjà. Et la panthère, finalement, tout s'est fait progressivement. Les trois premiers voyages, rien du tout. À un moment, j'ai trouvé une trace de félin. Je savais pas si c'était un lynx. Le lynx est aussi présent là-bas. Et c'est au bout du quatrième voyage où j'ai vraiment vu ma première panthère.
Alors, on aura l'occasion d'y revenir, hein, à cette sensation, cet émerveillement quand enfin on croise la route d'un animal tant attendu. Mais pourquoi avoir eu envie de partir, vivre cette aventure, vous, le photographe discret, taiseux, avec cet écrivain voyageur, baroudeur, particulièrement volubile, qu'est Sylvain Tesson? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lui demander de vous accompagner?
C'est vrai que c'était pas gagné, hein, notre duo.
Votre duo, oui.
Pas du tout. Et surtout qu'on se connaissait dans les festivals de films d'aventure, mais jamais, on n'a jamais fait du terrain véritablement ensemble. Mais il m'avait quand même soumis l'idée de, que ça l'intéressait de pratiquer l'affût. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es d'accord? On fait un voyage, tu feras les légendes de mon livre photo.
Ouais.
On fera un film pour un peu terminer toutes les images que moi j'avais tournées auparavant. Et je voulais pas faire un documentaire animalier, mais qui est un échange, qui est ce mélange entre ces belles images, cette poésie un peu saisie là-haut. Mmh. Sylvain, il était là aussi pour donner un peu plus de, un peu de hauteur, hein, moi, là où je m'exprime par l'image. Et lui, évidemment, il a le mot précis, le mot juste.
Je vous propose de l'écouter, justement, Sylvain Tesson et son mot juste, évoquant cette expédition avec vous, Vincent Munier, sur les traces de la Panthère des Neiges après son retour.
Moi, je connaissais davantage le goût du mouvement. Je suis parti maintenant pendant presque 3 décennies à la poursuite de moi-même. Je croyais jusqu'alors que l'intensité, l'intérêt de la vie venait de la naissance, de la variété des situations, des impressions, des émotions et des sensations nées du mouvement. Et voilà que soudain, Vincent Munier me propose une autre modalité qui est la modalité de l'immobilité, de la patience, du silence, de l'attente, de l'attention et parfois de l'émerveillement si jamais quelque chose apparaît, mais ça n'est pas sûr que quelque chose apparaisse. Donc il faut accepter soudain que rien ne se passe. Et ça, c'est quelque chose de très anti-moderne, puisque aujourd'hui, nous vivons dans une époque où nous voulons tout, tout de suite. Et voilà que Munier me dit, peut-être rien, jamais. Alors évidemment, au début, je me disais, je ne supporterais pas, moi. Je l'ai très bien supporté parce que, à force de regarder, de scruter le monde qui vous environne, on s'aperçoit tout à coup qu'il y a beaucoup plus de choses que nous le soupçonnions qui se passent autour de nous.
Vincent Munier, vous l'avez transformé, Sylvain Tesson. En tout cas, vous lui avez ouvert d'autres perspectives.
Oh, je ne pense pas, moi j'ai pas cette... Mais il est certain qu'on a eu tout de suite des atomes crochus de par nos choix de destination, cette émotion qu'on recherche, et puis ce dépassement de soi, c'est certain, et cette envie de partage, lui par ses récits et moi par les images.
Ouais, alors nous verrons dans la suite de cette émission ce que vous avez vécu ensemble, et puis comment s'est passée cette initiation de Sylvain Tesson à l'art de l'affût. Mais avant cela, revenons à votre initiation, à vous, Vincent Munier, qui est venu beaucoup plus tôt, hein, pour le coup. Comment vous êtes venu à photographier des animaux sauvages?
Je le dis souvent, c'est une grande chance. Grande chance d'être né dans les Vosges, déjà, avec une forêt pas très loin. Des parents qui m'ont ouvert les yeux sur les choses simples, sur les choses extraordinaires qui étaient à côté de chez nous, de notre maison. La forêt pas très loin, une friche, une grande forêt. Et voilà, tout s'est fait de manière un peu naturelle, avec juste des activités dehors. Je crois que c'est un peu ça la règle.
Et vous vous souvenez du premier animal sauvage que vous avez photographié?
Oui, c'est toujours ce moment qui a un petit peu été un instant de bascule. C'était cette rencontre avec ce chevreuil, et c'est là où je dois beaucoup à mon père qui est naturaliste et qui a osé me laisser, à mes parents finalement, me laisser tout seul en forêt pendant plusieurs jours. J'avais une douzaine d'années quand j'ai croisé ce chevreuil. C'était juste incroyable, c'est comme un mirage, c'était une vision très très rapide, très furtive, et on sait pas si c'est un rêve ou une réalité, parce que voir un animal sauvage si proche, en l'occurrence un chevreuil, quelque chose de tout à fait basique, et puis de pouvoir figer cet instant, j'ai trouvé ça hyper excitant. Et puis après je reste un éternel gamin à construire des cabanes. J'ai ne cessé de faire des affûts de tout genre pour les oiseaux, pour les mammifères, des affûts dans les arbres, sous l'eau, immergés. Enfin voilà, donc c'est une quête permanente.
Ouais. À 18 ans, vous partez en voyage pour suivre les oiseaux migrateurs qui passent régulièrement au printemps et à l'automne au-dessus de votre maison.
Oui, bah c'était quand même fascinant. La nuit, on entendait de temps en temps comme des grenouilles sur le toit, des croissements. Ouais. On disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et c'était des grues cendrées qui passaient, qui migraient, qui partaient de Scandinavie pour aller pendant l'hiver en Espagne. Et j'ai trouvé cet oiseau fascinant. Fascinant, je pense que c'est vraiment ce piaf qui m'a donné envie du voyage. Et dès que j'ai eu les moyens d'aller en Scandinavie, j'y suis allé, j'ai fait son chemin migratoire jusqu'en Espagne. Ouais. Et c'était l'un de mes premiers livres en 99, je crois. Et non, ce sont des grands moments et des grues. Ensuite, j'ai voulu aller voir des espaces encore un peu plus sauvages, parce que c'est ce qui nous manque parfois de temps en temps dans nos pays un peu trop anthropisés où l'homme est très présent. Et donc les pays de l'Est où j'ai pu aller voir les ours, les loups, les lynx. Oui.
Alors vous choisissez les destinations pour le décor, pour la faune que vous alliez y trouver. Qu'est-ce qui allume votre désir de vous rendre quelque part et d'y passer ces longues heures d'affût?
Qu'est-ce qui m'anime, ce qui est génial dans cette passion, c'est un mélange de pas mal de choses. Il y a la patience, il y a le respect que m'a inculqué mon père, c'est-à-dire en disant on n'est pas chez nous, on est attentif. La chance, évidemment, il y a un dépassement de soi, le fait de se sentir encore ancré par rapport à tous les autres êtres vivants, être avec eux, vous voyez, toucher la terre, être dans l'humus, faire du bivouac, voilà, en permanence. Mmh. Je suis tellement, fasciné, c'est vraiment un amour inconditionnel par rapport à toutes ces bêtes qui sont d'une beauté incroyable, d'un équilibre, d'un ordre, qui sont là depuis tant d'années, et c'est vraiment essayer de les magnifier, c'est un peu ça, et c'est dur hein, parce que j'ai des émotions qui sont tellement fortes avec eux pendant cette quête de la photo et de la rencontre que j'essaye un peu de la restituer par mes photos ou par mes films et c'est très dur, c'est extrêmement dur. Mais voilà, c'est un hommage démesuré que j'ai envie de leur rendre.
Ouais. Et c'est ce que vous avez partagé avec Sylvain Tesson dans ces montagnes tibétaines. Vous allez nous raconter votre aventure sur les traces de cette panthère des neiges, le temps d'un bivouac avec le photographe Vincent Munier cet après-midi sur France Inter.
Adieu, créature, je m'en vais dans la nature, et ne m'en veuille pas, tu ne seras jamais pour moi qu'une jolie créature perdue dans la nature, aimant un peu, beaucoup trop, pas assez ou pas du tout. Je suis là pour je ne sais qui, pour je ne sais quoi. Tu m'as pris pour je ne sais quoi, pour je ne sais qui. Et moi, je ne sais ce qui m'a pris, ce qui m'a pris de venir ici. Adieu, créature, je m'en vais dans la nature, et ne m'en veuille pas, une de ces nuits on se reverra. Adieu, créature, adieu, créature, on se reverra quelque part dans la nature.
C'était Serge Gainsbourg qui chantait Adieu créature sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
T'imagines là, elles peuvent vraiment être partout, partout, partout. Donc si t'es pas vraiment un acharné, puis si tu balayes pas avec ta longue vue, tu vois, de manière un peu disciplinée, de chaque rocher.
La part cachée du monde.
Ouais, exactement.
Faut avoir une bonne vie intérieure, hein, quand même. Quand tu fais des affûts tout seul.
toi, quand tu fais un affût comme ça pendant deux jours, c'est fantastique pour la méditation et la pensée. Mais tu dois. Est-ce que c'est pas comme dans les insomnies où tu finis par développer des pensées noires?
Ah non.
Tu restes immobile, tout seul, à scruter des rochers. Tu dois finir par moudiner sévère du ciboulot quand même.
Ah non.
Non.
Ah non, mais vraiment pas.
Oui.
Vraiment pas. C'est fou, hein?
C'est bien. Ça veut dire que tu te sens là où tu dois être, quoi.
Ouais, mais complètement.
Un Sylvain Tesson saupoudré de neige sur les plateaux tibétains, transi de froid, en train de guetter des présences invisibles et finissant par s'inquiéter un peu pour votre santé mentale, hein, Vincent Munier. C'est vrai, vous ne vous ennuyez jamais pendant ces longues périodes d'affût?
Non, vraiment pas, mais vraiment pas. Et certains me disent, mais est-ce que tu écoutes de la musique ou tu peux prendre un livre? Non, jamais, pas quand on est à l'affût, parce que je dois être à 100% éveillé, tous mes sens sont là, travaillent, et il ne faut rien louper. Ouais. Chaque petit indice, une petite lecture, là vous avez vu dans l'extrait, il y a un grand corbeau qui passe, on va le suivre, lui peut nous amener, ça peut à quelque chose. Donc c'est plein de petits indices, des indices qui sont précieux. Et, ouais. Et donc je suis attentif en permanence. Alors c'est un peu casse-pied pour parfois pour ceux qui m'accompagnent, parce que on dit que je suis un peu possédé et que donc je prête pas trop attention.
Ouais, c'est ça. Faut plus vous parler, quoi. Vous êtes ailleurs.
Je suis vraiment concentré et il y a un côté un peu animal, c'est vrai.
Ouais. Vous vous mettez dans un état psychologique particulier, c'est un travail ou ça vient naturellement?
C'est dur parce que c'est tellement c'est ancré en moi depuis tellement gamin. Enfin, c'est vraiment la seule chose que je sais bien faire, quoi. Je sais même pas, parce qu'il y a énormément d'échecs et c'est ça qui est génial, c'est que rien n'est écrit, rien n'est sûr et ça c'est hyper excitant. Mais j'ai du mal à le définir parce que c'est un état qui est un peu naturel. Mais quand on est dans un milieu naturel sauvage, on est différent, c'est certain, de quand on est en société. Et on n'est pas tout à fait le même homme.
Ouais. Et vous êtes plus vous-même quand vous êtes sur la terre.
Ouais, mais c'est ce que je dis. Je me suis jamais aussi bien senti, très apaisé. Vous savez, des sourires peut-être des fois un peu niais, ou quand je me sens bien, quand tout est en ordre, je sais qu'il y a la présence des ours, de la panthère, des loups, que tout est là, qu'il n'y a pas un déséquilibre amené par nous, parce que c'est quand même, j'en souffre énormément chez nous. Donc il y a un apaisement et vraiment une sérénité qui fait que, voilà, une grande respiration, il m'arrive de hurler de joie. Et je le fais là-bas, je le fais jamais chez nous.
Ouais. Alors en même temps, là, c'est le meilleur moyen pour se faire repérer, quand on se met à hurler de...
Ouais, je le fais quand il y a une tempête, par exemple, ça c'est super. Quand tu te fais vraiment fouetter le visage en article, j'ai connu ça, c'est extraordinaire. Parce que de temps en temps, quand c'est un calme absolu, quand tu marches sur la glace, ça s'entend, ça craque, tu te dis, mais s'il y a un ours à 3 km, il m'entend. Ouais. Et quand il y a une tempête qui est violente, là, tu peux te permettre de hurler, tu sais très bien qu'à 30 mètres, on t'entend pas, quoi. C'est se bouffer les éléments naturels dans la tronche et de manière un peu violente, rude, mais et ça me fait du bien. Tu te sens vivant, voilà.
La seule façon d'approcher ce monde sauvage, c'est de se mettre en retrait, en attendant, comme ça à l'affût, ou on peut aussi y aller comme un félin, de façon très furtive, en avançant, en rampant. Est-ce qu'on peut aussi aller vers et ne pas seulement attendre?
Oui, c'est deux techniques, mais j'avoue préférer celle de l'affût, parce que c'est un peu plus réfléchi. Une fois que t'as bien observé le relief, que t'as bien, tu passes un temps fou dans les yeux, dans les jumelles, à bien tout regarder avant, et là tu te dis bon ben voilà, en fonction du vent, en fonction de la lumière, là il y a un affût potentiel, et t'y vas, et tu sais que tu dérangerais pas, c'est l'animal qui vient à toi, et pas l'inverse. Moi, j'aime pas interagir avec l'animal. J'ai pas envie d'un lien avec lui. Il fait sa vie, je fais la mienne. Et je veux vraiment saisir son comportement le plus naturel possible. Ouais. Et sans interagir.
Ouais. C'est jamais arrivé, une interaction?
Bien sûr. Ouais. Alors je dis ça, mais avec les loups blancs, mais c'est dans des endroits où il y a quasiment pas d'hommes, on peut dire qu'ils en voient pas, où là, j'ai senti que, il y avait presque, alors j'aime pas dire ça parce que c'est de l'anthropomorphisme, mais presque une complicité ou une envie, une curiosité quand ces loups sont venus me voir.
Ça c'était en Arctique?
En Arctique. Quand ils restent pendant plusieurs jours à mes côtés et qu'ils arrivent, il y en avait un, c'était comme un fantôme. C'était comme dans ça avec les loups, loup chaussette, quoi. Il disparaît, il apparaît, il venait me tirer le harnais de mon traîneau, il venait me couper les fils de ma tente, il disparaissait, il me chopait une moufle. Enfin, c'était génial.
Ouais.
Et là, il y avait quand même quelque chose qui se passait. Ouais. Mais c'est rare. Ouais. Et je le cherche pas. Ouais. Je veux vraiment m'effacer.
Et puis vous avez l'art de faire parler les traces aussi. C'est ce qu'on voit dans ce film. Vous arrivez à un moment dans une grotte. D'ailleurs, Sylvain Tesson se moque un peu de vous parce que vous reniflez les parois de la grotte. Vous avez quelque chose, un rapport très animal finalement à ce monde. Et vous arrivez à faire parler. Mais c'est un travail de détective en même temps. Cette façon, le moindre indice, de réussir à le faire parler. Mm-hmm.
C'est plein d'indices. En effet, des poils, des choses remuées. Enfin, c'est difficile à décrire. Mais oui, c'est être attentif au moindre. Moindres petites choses qui ont bougé. Et les traces, c'est capital. Il est certain qu'au Tibet, la première panthère que j'ai pu voir, c'était grâce à une petite neige toute fraîche qui était tombée. Et là, c'est comme si on est une nouvelle page blanche. On a ça aussi des fois dans le désert, après du vent. Et c'est fabuleux, quoi. Il y a une nouvelle écriture, c'est vraiment comme ça, et qu'il faut essayer de déceler. Mmh. Et là, j'ai vu, en suivant ces traces toutes fraîches, j'ai vu ma première panthère. Ouais. C'était en 2016.
Et ces animaux, autant vous avez parfois du mal à les débusquer dans le paysage, autant eux ont une acuité que nous n'avons plus, parce que souvent, ils vous voient avant que vous les ayez vus.
Complètement. Complètement encore plus au Tibet, et c'est pour cette raison que j'adore imiter la panthère. Hein. On use de sa technique, essayer d'être camouflé, d'être caché, et puis d'observer, d'être à sa place, d'être un prédateur. Mais c'est un sentiment des fois qui est assez agaçant d'être si peu performant dans des milieux comme ça. Mmh. De voir à quel point notre bulle de confort nous a éloignés de cette capacité, à cette flexibilité, cette aisance dans des milieux naturels.
Ouais. À tel point qu'il vous est arrivé de prendre la panthère en photo sans avoir conscience qu'elle était dans votre objectif.
Ah ouais, c'était un bon pied de nez de la panthère. C'est incroyable, parce que cette histoire, j'avais quand même aperçu le matin cette panthère qui s'était faufilée dans un amphithéâtre, comme un gros canyon face à moi. Elle devait être par là, et je l'attends, j'attends rien, jusqu'à la nuit quasiment. Mais pendant cette attente, un faucon arrive et se pose sur un rocher, et donc je le fais en photo, mais c'est très ciblé, hein, je suis avec un tel objectif, donc c'est vraiment une toute petite partie, je fais cette photo de faucon, et je rentre au camp, à l'attente, voilà, bredouille. Et c'est seulement 2 mois après, je me souviens très bien, j'étais au téléphone avec ma collaboratrice Marine Delacoste, et je lui dis: Marie, tu vas pas me croire, j'avais vraiment la chair de poule. En regardant la photo de ce faucon, derrière, je voyais tel un périscope la tête de la panthère qui m'observait.
Vous ne l'aviez pas vu.
Hallucinant, et je ne l'avais pas vu.
Ouais, incroyable.
Et donc ça fait du bien, parce que voilà, ça montre à quel point, même si je suis souvent là-bas, soi-disant aguerri, et ben non, je me fais avoir sans cesse.
Ouais. Mais ça pose une question quand même. À quel point vous pourriez être une proie pour ces animaux qui vous voient quand vous ne les voyez pas?
Ah ben, ça aussi, je trouve que c'est un sentiment qui est bon. Alors évidemment, c'est un peu ce que je recherche, c'est cette vulnérabilité, le fait de se sentir un peu proie. C'est important, je trouve. Alors évidemment que la panthère, elle attaque pas l'homme, les loups non plus. L'ours, ça peut arriver. C'est des accidents, mais ça peut arriver. Mais aussi ces milieux qui sont par ces tempêtes, par ces rochers, et le fait de se sentir un peu vulnérable, c'est un sentiment qu'on a un peu oublié. Parce qu'on a toujours tendance à se sentir les maîtres du monde, à décider du sort de telle ou telle espèce en fonction de si elle nous est utile ou pas. Ça m'agace à un point. Parfois, j'ai même envie d'amener à l'affût un peu nos décideurs politiques et de les emmener bivouaquer à moins 40 en Arctique et de montrer à quel point cette force est... de la nature nous rend hyper humbles.
Ça pourrait être une idée à retenir. Ça ferait un film intéressant, différent mais intéressant. Il y a un moment dans votre film, vous parliez des ours, où on sent Sylvain Tesson pas franchement rassuré à vos côtés. Au loin, vous apercevez des ours du Tibet. C'est une première hein, pour vous. Vous attendiez même pas à pouvoir les observer. C'est une chance de les croiser. Une chance que Sylvain Tesson semble goûter moyennement.
C'est une mère avec 2 oursons. Ça peut être dangereux. Là-haut, Sylvain, en silhouette. C'est magnifique.
Il faut venir vers nous, c'est sûr.
Je sais pas. Si c'est eux qui viennent vers nous, ce sera moins gênant.
C'est pas dangereux.
Non, non. Ils se frottent à la pierre. Regarde-moi ça, il va se mettre sur ses pattes arrière.
C'est qu'il est pas content.
Non, 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 ça lui fait du bien. Ils adorent ça. Ne bouge pas, Sylvain. Ne bouge pas.
nous ont vus, c'est certain. Ils nous regardent attentivement.
Mais il faut peut-être qu'on se barre, quand même.
Non, on se barre pas.
Ils sont poussés où ?
C'est une des nombreuses scènes très belles du film La Panthère des Neiges qui sortira mercredi prochain. Ça dure longtemps ce jeu entre vous. Vous voulez rester et puis Sylvain dit mais quand est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on se barre ? À sa place, franchement, on n'emmènerait pas large non plus. Dans ce genre de scène, il y a une tension parce que finalement il y a eu l'attente. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. Mais jusqu'où on laisse les choses se produire ?
Ouais, quand même. Ouais, bah, bonne question. Mais c'est rigolo, ça me fait rire à chaque fois parce que j'ai un ton très directif envers Sylvain. Non, on reste.
Ouais.
Je n'oserais jamais. Mais sur le et là pour la petite histoire, on était tous les deux. Marie et Léo étaient un peu plus loin, à un kilomètre. On les avait repérés le matin et avec Sylvain, on avait tenté un peu d'être sur un autre angle, un peu plus proche. Et là, on filme. Là, les commentaires que vous entendez, c'est juste ma petite caméra. Je l'avais posée dans des cailloux et je filmais et ça enregistrait de manière vraiment voilà naturelle. Et en effet, là, la situation commençait à être délicate. Cet ours, au départ, je croyais un peu sauvage, un peu farouche. Et puis, il nous a repérés, ça c'est certain. Et donc, il était intéressé quand même parce qu'il gardait le cap dans notre direction. Enfin, il gardait vraiment... Donc là, ça commençait à devenir en effet un peu tendu. Donc à un moment, je ne sais pas, c'est encore une fois un peu l'instinct, mais des fois, il peut être très mauvais. Hein. Ouais. Mais là, il fallait qu'on parte, en effet. Ouais. À un moment donné, on était à moins de 100 mètres. C'est rien du tout au Tibet, évidemment.
Ouais.
Mais au Tibet, souvent, on me demande si j'ai eu peur. Ma plus grosse frayeur, c'était avec la police chinoise, quand même. Pour dire que des fois, souvent, on aime bien raconter des histoires qui nous ont fait peur avec des animaux sauvages. Mais les plus grosses frayeurs, et là où il y a des accidents, c'est souvent avec l'homme. Ou alors dans les trajets, que ce soit en avion, en voiture.
Vincent Munier, il n'y avait aucune certitude que vous finissiez par apercevoir avec Sylvain Tesson cette insaisissable panthère des neiges. Elle s'est faite attendre, mais la rencontre a bien eu lieu. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé dans un instant.
Monsieur des mirrors, feel, we are the young guy, the hunger. Monsieur des mirrors, feel. All right, one more time. Okay. Me show them heroes, feel it. We are the anger and the hunger. Me show them heroes, feel it. We are the anger and the hunger.
Holy water, crying like the altar. In and your desire, freedom from the man.
Good for you.
You know that it's good. You know that it's good for you.
Push it up here.
C'était IBI qui chantait Made of Gold.
France Inter, le temps d'un bivouac.
C'est un grand artiste. Alors évidemment, c'est un technicien aussi, c'est un photographe animalier. Il est encombré de tout un bric-à-brac d'appareils photos et de lunettes et de télescopes extrêmement sophistiqués, mais c'est un artiste. Il rend à la beauté de la nature, il paye sa dette d'observateur amoureux à la nature en offrant des images qui sont, enfin, pour moi, somptueuses, quoi. C'est pas des photos animalières, c'est des rêves.
Ce qui fait sa force, c'est qu'il est capable de se nourrir de ce qu'on ne voit pas encore, quoi, de ce qu'il n'a pas encore vu. Et ça lui suffit pour avoir des kilomètres de patience. C'est à se demander s'il ne fait pas les photos, enfin si elles ne sont pas faites avant qu'il appuie sur le bouton, en fait. C'est comme si il avait toujours un train d'avance.
Voici Vincent Munier, comment vos deux compagnons de route, Sylvain Tesson et la réalisatrice du film La Panthère des Neiges, Marie Amiguet, parlent de vous et de vos photos animalières. Marie Amiguet disait qu'elle avait l'impression que vous aviez ce train d'avance. C'est vraiment le cas?
Ouais, ils sont trop aimables. Non, je crois pas du tout. Même artiste, des fois, moi, je me définis pas. C'est pas un excès de modestie. Je suis plus un interprète. L'art, il est dans la nature et moi, je suis juste fasciné par ça et j'ai juste peut-être un regard un peu différent, singulier de par mon histoire. Mais l'art, il est dans la nature. Moi, je crois être,
Vous n'avez pas le sentiment d'avoir un regard un peu de peintre parfois? Certaines de vos photos vraiment font penser à des peintures.
Peut-être, je m'inspire énormément de peintures et c'est vrai que souvent je le dis que j'aurais préféré être un peintre parce que il y a une insatisfaction permanente dans mon travail. Tellement c'est pur, tellement c'est beau, c'est minéral, tout est parfait, il y a rien, on est à la perfection dans la nature. Mmh. Et évidemment que j'y arrive pas. Il y a une frustration et c'est très agaçant pour mon entourage et même pour moi parce que je suis jamais satisfait. Ouais. Peut-être que je mets la barre très haute. Ce que je tente de transmettre par mes photos, c'est toujours une émotion. L'animal dans un milieu est resté dans la suggestion. Qu'elle soit pas finie, qu'elle soit pas, on est loin de l'hyper-réalisme ou quoi que ce soit. J'ai envie que c'est pour ça que je me suis échappé des contraintes techniques du côté flou, toutes ces règles. Je suis autodidacte complet, hein. J'ai fait aucune école photo, mais et faire les images qu'on a vraiment au plus profond de nous, hein, ouais. C'est ça.
Au plus profond de vous, c'est-à-dire que parfois vous avez la photo dans la tête avant d'aller la prendre.
Oui, ça m'arrive. Je les rêve. Ça m'arrive de les rêver. Ça m'arrive aussi de vivre des moments avec les yeux dans les jumelles ou sans jumelles. Et là, je me dis, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer, où tout était là.
Et il vous arrive que l'instant soit si parfait, si sublime, si émouvant, que vous ne prenez pas l'appareil photo?
Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, bien sûr. Première fois que je rencontrais un loup, j'étais trop ému et j'ai pas pu faire de photos et je voulais pas avoir cette barrière entre l'animal et moi. Donc ça m'arrive.
Le plus important dans tout ça, c'est la rencontre avant la photo?
Ah, complètement. Ah oui, mais ça c'est certain. Non, la photo, c'est presque secondaire. Ça pourrait être autre chose. Ça peut être la poésie, ça peut être la n'importe quoi, le dessin. Mais même, vous voyez, la photo, ce côté technique m'agace énormément. Pour moi, c'est un outil et c'est tout. Et la vidéo me plaît encore plus parce que je filme de plus en plus. Ça fait le deuxième film là que je co-réalise et je trouve que de marier, c'est un peu plus simple de transmettre les émotions qui sont hyper fortes et puissantes, qu'on vit sur le terrain. C'est un peu plus simple de les transmettre par une image animée avec un son nature et encore plus avec une musique, par exemple.
Alors, il y a la façon de raconter avec le film. Il y a aussi la façon de raconter par les mots, ce qu'a fait Sylvain Tesson avec son livre La Panthère des Neiges. Il a aussi raconté cette apparition, comme il l'appelle, de la panthère. Vous vous étiez installé sous un petit abri rocheux en surplomb et vous avez remarqué au loin la carcasse d'un yak qui venait d'être tué par la panthère. Vous avez passé la nuit là et voici comment Sylvain Tesson raconte dans son livre La Panthère des Neiges l'apparition du félin au petit matin.
Aux premières lueurs, nous rampâmes hors de nos sacs. Il avait neigé et la bête était près de son yak, babine rougie de sang, pelage saupoudré de blanc. Elle était revenue avant l'aube et dormait le ventre lourd. Sa fourrure était une nacre aux reflets bleus. Pour cela, on l'appelait Panthère des Neiges. Elle arrivait comme la neige, silencieuse, et se retirait à pas de feutre, fondue dans la roche. Elle avait déchiré l'épaule, part du roi. Une tache vermillon se découpait dans la robe noire du yak. La panthère nous avait repérés. Se tournant sur le flanc, elle leva la tête et nous croisâmes son regard, braise froide. Les yeux disaient « Nous ne pouvons nous aimer. Vous n'êtes rien pour moi. Votre race est récente, la mienne immémoriale. La vôtre se répand, déséquilibrant le poème. » Cette face barbouillée de rouge, c'était l'âme du monde primitif, alternant les ténèbres et l'aurore.
Extrait du livre « La panthère des neiges » de Sylvain Tesson, que Gallimard vient de rééditer, enrichi de vos photos, Vincent Munier. C'était lu par Eric Oswald. Vous avez permis cette rencontre entre Sylvain Tesson et cet animal, une rencontre qui, semble-t-il, l'a bouleversé, hein, à entendre son récit. Ça vous a surpris de lire ce qu'il avait fait de cette rencontre, la façon dont il l'avait raconté?
Rien qu'à écouter cette lecture, là, oui, évidemment, c'est assez incroyable de voir à quel point il a ce talent de trouver... le mot juste. Pour moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est presque de la marqueterie, quoi. Après, il travaille beaucoup, hein. C'est un besogneux. Il est talentueux, évidemment, mais quel talent pour trouver tout ce que nous, enfin, nous, on le pense, mais on n'arrive pas à l'exprimer. C'est juste, et après, sur cette panthère, nous, cette rencontre, c'est vrai que c'est une chance qu'on a eue incroyable. Et pour le film, et pour lui, ce qu'il en ressort, quoi. Et comme quoi, je ne sais pas, tout s'est bien aligné sur ce projet, quoi. Toutes les étoiles étaient là. C'était 3 jours avant la fin de notre séjour. Ouais.
C'est-à-dire qu'elle a ménagé le suspense. Un scénariste n'aurait pas fait mieux.
Mais oui, alors, et c'est juste en montant, on choisit de dormir dans cette grotte. Et c'est en montant, Marie était un peu fatiguée, elle attendait, je la rejoins, elle me dit, regarde, il y a comme une proie, il y a des poils là, je regarde, purée, c'est un yak tout frais. C'est-à-dire qu'en montant à notre bivouac, elle a dû s'échapper, elle nous regardait monter, quoi. Elle a attendu toute la nuit, probablement, elle savait qu'on était dans cette grotte, pour venir se nourrir. Et comme le dit Sylvain, c'est extirpé du sac et l'aube commençait à arriver, tout était sombre, je mets les jumelles et je voyais cette masse du yak qui bougeait. Je me dis, bah voilà, il y a une bête dessus, quoi. Et c'était elle, et petit à petit, on a pu découvrir les taches et puis la forme de la panthère et la filmer. Et c'est évident qu'elle nous avait vus. Elle avait pris le temps de bien... Voilà, c'était elle qui a décidé de la rencontre.
Ça veut dire qu'elle s'est habituée à votre présence. Elle a compris que vous n'étiez pas une menace. Comment vous...
Probablement. C'est probablement ça. Et puis, il faut savoir qu'une vie de panthère, c'est pas simple. Quand elle chasse, j'en ai observé des chasses. Il y a énormément d'échecs. Et souvent, elle loupe. Et elle prend des risques. C'est-à-dire que c'est souvent dans des pentes très abruptes, très rocailleuses. Tel un obus, c'est vraiment ça. Elle saute sur sa proie. Elle essaye d'être au plus près, évidemment. Elle roule avec. Donc, on a vu, cette panthère, elle est pleine d'hématomes, vous avez vu. Et donc, une fois qu'elle l'a vraiment eue, eh ben, elle a besoin de se nourrir. Donc, je pense qu'elle a dû, comment dire, jauger un peu le risque. Et puis, à un moment, elle avait trop faim, elle est venue se substanter.
Comment on rentre d'un voyage pareil, celui-là et les autres, hein. C'est-à-dire qu'on sent que vous vivez des aventures très fortes, que vous êtes dans votre élément quand vous êtes immergé dans le sauvage. Et puis après, il y a le retour à la vie de tous les jours.
Oui, bah c'est dur, c'est violent. On se prend des grosses claques. Bah déjà quand on quitte ces hauts plateaux et qu'on arrive dans ces grosses mégalopoles chinoises où c'est d'une laideur infinie, d'une puanteur incroyable. Donc ça c'est violent. Et puis chez nous aussi. J'ai une souffrance qui est permanente, si vous voulez, par rapport au mal qu'on fait aux sauvages. Et qui est crescendo. Ouais. C'est quand même fou. On se prend des grosses gifles quand même pour montrer à quel point il faudrait qu'on change de direction et qu'on soit un peu plus respectueux de tous les autres êtres vivants. Mais on continue toujours de prendre ce chemin et c'est toujours la croissance, l'économie, c'est toujours les chiffres qui décident avant la vie, quoi. Donc c'est super pour nous, naturalistes et puis pour tout le monde finalement, parce qu'on en a besoin, c'est très dur. C'est une souffrance intérieure qui est forte. Et donc le Tibet, le Kamchatka, l'Arctique, c'est des respirations. Ça me fait un peu de bien. Mais quand je rentre, après, j'essaye de faire la même chose chez nous. Hein, là, j'ai un projet de montrer à quel point il est utile aussi de préserver nos forêts françaises, nos forêts qui sont à l'image de l'agriculture, devenues l'exploitation, l'intensification. C'est dur, hein, c'est très dur. Mmh.
Il y a d'autres animaux sauvages qui hantent vos pensées, Vincent Munier, sur les traces desquels vous aimeriez aller?
Il y en a plein, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est une source intarissable, tellement je suis curieux, émerveillé de plein de choses. Il y a un autre félin, évidemment, qui m'attire, c'est surtout un récit qui m'a guidé, c'est Der Zuzala, d'Arseniev. Je l'ai lu très jeune et je rêve d'aller dans ces forêts de la taïga et voir le tigre de Sibérie en bas, comme dit Derzou. Mais je sais même pas si j'irai, parce que je vois qu'il y en a de plus en plus qui y vont. Est-ce qu'il serait pas bon que ça reste un rêve? Est-ce que c'est encore utile d'y aller? Je ne sais pas. La Panthère des Neiges, c'est un projet de 10 ans. On a terminé. Et je suis pas sûr de vouloir y retourner. Je suis en pleine réflexion là-dessus.
Bon, eh bien, vous reviendrez nous dire quand vous aurez tranché la question. Merci, Vincent Munier. Le film La Panthère des Neiges est à découvrir dans les salles de cinéma dès mercredi. Restez avec nous, Vincent, car un beau film peut en cacher un autre. Dans un instant, nous allons changer de montagne pour partir sur les traces d'un autre animal avec quelqu'un que vous connaissez, Rémi Masseglia. Il est parti avec sa petite fille Naïs, âgée d'à peine un an, sur les traces du loup dans le parc du Mercantour. Il va nous raconter ce beau voyage initiatique.
170 au compteur, je passerai presque inaperçu. On s'est écrit tout à l'heure, je ne veux pas de malentendu. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attarde. Envie déçue ou amour fou. Y'a mes idéaux qui me lâchent. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te bat. Bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Même si je ne t'appelle pas, mélancolie. Encore un après-midi à mater la rue de chez soi. Si seulement ça faisait envie de les voir faire n'importe quoi. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attache. Là dans mon cou, tu es revenu. Y'a ma raison qui me lâche. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. T'appelles mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Casquette de ciel enfoncé, on se croira toujours heureux. Nos cœurs sont pourtant gris foncé. Je dors pour rêver un peu, pour qu'on vienne me réveiller. Les étoiles que j'ai dans les yeux ne sont pas des lunes accrochées. Je sors le soir avec ma lady, elle porte lunettes et traits d'esprit. Des dollars plutôt que du brandy, c'est des faux espoirs qu'elle vous brandit. Vous l'avez tous aimé mon ami, elle vous rend visite toutes les nuits. Je voudrais pourtant qu'elle me quitte et que de mes peines je m'acquitte. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passera pas. Je cherche dans les draps.
C'était Pierre Debé qui chantait Mélancolie dans le temps d'un bivouac. Et c'est Valentine Chédebois qui signe notre programmation musicale.
Anna.
Qu'est-ce qu'il y a?
Anna.
C'est quoi?
Des traces.
Des traces de quoi?
De maïs.
De maïs?
Oui.
Ça, c'est pas des traces de maïs, c'est des traces de quoi?
Cassé au loup.
Des traces de loup toutes fraîches. Tu les vois, Naïs?
Oui, toutes fraîches.
Toutes fraîches. Alors là, si tu regardes bien, il marche vraiment. Elle a queue leu-leu.
Queue leu-leu. Queue leu-leu.
Elle a queue leu-leu. Mais on a vu qu'il y avait des traces de deux loups.
2, 3, 4, 5, 6.
Nous voilà arrivés dans le parc du Mercantour avec la petite Naïs et son papa qui vient de nous rejoindre. Bonjour Rémi Masseglia.
Bonjour Daniel.
Nous entendions à l'instant un extrait du très beau film Naïs au pays des loups qui sera diffusé jeudi prochain sur France 3 à 22h45. Alors c'est un film plein de poésie. Alors que votre fille commençait à peine à marcher et à dire ses premiers mots, vous vous êtes lancé avec elle dans une superbe aventure dans la vallée de la Roya, à la découverte de la nature. Alors, en toute saison, hein, qu'il vente ou qu'il neige, vous êtes partis tous les deux sur la piste du loup. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure alors que Naïs avait à peine un an, hein ?
Alors, c'est une histoire qui s'est faite tout en douceur. Naïs est née et ça a été pour moi une énorme émotion, vraiment une explosion de bonheur. Et j'ai eu envie de prolonger en fait cette sensation-là et de continuer à faire des choses fantastiques avec elle. Alors je savais pas trop vers quoi j'allais me diriger. J'avais envie de faire un documentaire sur les loups, donc m'intéresser à l'animal de façon plutôt habituelle, en fait, m'intéresser à la polémique, au déplacement de ces animaux dans la vallée dans laquelle je suis. Et puis j'ai fait ce travail-là, un travail de recherche et d'écriture avec Naïs sur le dos. Et je me suis rendu compte que l'évidence, c'était à travers son regard que j'avais envie de parler de cet animal-là. Et puis petit à petit, on s'est retrouvés embarqués dans un pistage animalier tous les deux. Et
c'est ça, c'est l'histoire d'un apprentissage, hein, avec ses déconvenues aussi. Hein, au début du film, quand vraiment Naïs est toute petite, elle a à peine un an, vous l'emmenez écouter bramer les cerfs et elle fond en larmes.
Oui, je suis un papa j'étais à cette époque-là un papa inexpérimenté.
Ouais.
Et je pensais que c'était une idée plutôt chouette d'amener ma fille voir des animaux qui, à l'inverse de fuir, nous indiquent où regarder dans le paysage. Et puis, je me suis rendu compte que c'était vraiment assez impressionnant pour une petite fille.
Ouais.
Et c'était une déconvenue réelle, hein, sur le tournage. Moi, je me suis dit, peut-être que je me plante. Peut-être que je me plante d'embarquer ma fille sur la piste des loups.
Ouais.
Et du coup, j'ai dû réadapter ma façon de voir la nature, de progresser dans la nature et m'adapter à elle,
oui.
à
et
sa
vous,
vie.
Vous y avez réussi, hein, parce que par la suite, vraiment, elle s'y est fait au bruit des animaux, hein. Elle est à l'aise dans cette vallée, un peu comme un poisson dans l'eau. Elle manifeste un enthousiasme, alors à toute épreuve, hein, qu'il vente, qu'il neige, même vous traversez des tempêtes avec elle. Des fois, vous l'avez sur le dos, mais c'est presque elle qui vous porte, finalement, Rémi Masseglia.
C'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Et on va dire que plus les conditions étaient dantesques, plus elle appréciait. Ouais. Partir à la montagne, sous la pluie et dans les tempêtes de neige, c'est là que vraiment je ressentais qu'elle vivait l'aventure pleinement.
Ouais.
Et ça, c'est assez extraordinaire.
Mais pour un enfant, le loup, c'est présent dans les contes, dans les comptines, ça a souvent le rôle du méchant. Elle n'était pas du tout apeurée par l'idée d'aller à la rencontre de ce loup?
Disons qu'on a commencé cette aventure assez tôt dans l'âge pour pas qu'elle soit imprégnée par tout ce qui est image du loup des contes de fées.
Mmh.
Et puis, elle a vu les loups sur les caméras automatiques avant de comprendre les histoires sur les loups. Donc, elle a très vite, après, dissocié l'animal des contes de fées de celui qu'on arrivait à voir sur nos caméras.
Ouais, alors les caméras automatiques, ce sont des sortes de pièges qui se déclenchent pour prendre des images des animaux quand ils passent. Vous les posez dans le paysage et puis vous partez, vous regardez ensuite ce que les caméras ont réussi à prendre comme image. Vous avez notamment quand même, il faut le dire, avec ce travail naturaliste sur le terrain, vous avez quand même réussi à découvrir la présence d'un mammifère dont on ignorait la présence dans le parc du Mercantour.
Oui, ça fait partie des expériences où la rêverie se mélange à la réalité. Et pour nous, c'était complètement incroyable de découvrir un nouveau mammifère dans le Mercantour. Ça nous a amené une petite caution naturaliste, ouais. Une petite caution naturaliste au film, ouais. Qui était chouette à prendre aussi.
Ouais. On donne le nom de cet animal ou on le laisse découvrir aux téléspectateurs ?
Je sais pas quelle est la stratégie. Là. On peut le laisser.
On peut le laisser découvrir. On laissera la surprise. Quel mammifère se cachait dans le parc du Mercantour. Pour le savoir, il faudra regarder ce film. Petit à petit, les animaux vous ont accepté votre présence. On voit Naïs grandir au fil des saisons. Elle évolue très rapidement. C'est vraiment un parcours initiatique que vous avez filmé. Pendant combien de temps avez-vous filmé cette progression ?
Pendant 2 ans. On a filmé 2 fois chaque saison et je ne sais pas si réellement les animaux nous ont acceptés ou si on a été un tout petit peu plus acceptable.
Ah.
C'est vraiment ça la façon de penser, c'est que au début on est arrivé avec à grands pas et on est ressorti sur la pointe des pieds et c'est vrai qu'on a appris à en tout cas pas être forcément invisible parce qu'avec une toute petite fille c'est très compliqué mais en tout cas à faire un petit peu moins de bruit que ce qu'on faisait au début.
Vincent Munier, vous êtes resté avec nous, vous connaissez hein, Rémi Masseglia, je crois que vous avez participé peu à l'aventure. Quel regard vous portez sur cette initiative ? Vous aussi vous êtes initié à la nature très tôt mais peut-être pas à 1 an quand même.
Non, je salue Rémi en tout cas. Et
salut
Naïs.
Vincent.
Et non, 1 an peut-être pas, mais c'est la transmission, quoi. C'est ça qui est fabuleux dans son projet, et c'est ce qu'il faudrait que ça se fasse un peu tache d'huile. Mais on a ce besoin d'emmener nos enfants dehors et de les faire quitter un petit peu leur zone de confort. Et ils vont s'éclater, quoi. Ça va être.
Rémi Masseglia, c'est plein de premières fois ce film. Hein, les premières observations, la première nuit sous la tente, la première nuit à la Belle Étoile. La première nuit à la Belle Étoile, elle est un peu inquiète quand même. Elle se demande. Moi, je suis fatigué, je ne vais pas dormir sans tente. Elle est un peu surprise.
Oui, disons que toutes les premières fois dans la montagne sont assez surprenantes et finalement, on se rend compte que c'est que de l'appréhension, en fait.
Ouais.
Et que le danger n'existe pas là où on pense. Et tout ça, elle le comprend très vite et très bien.
Ouais. Aujourd'hui, elle a 4 ans, Naïs. Elle est rentrée à l'école maternelle. Comment s'est faite cette transition entre ces grands moments d'aventure avec son papa à travers la vallée de la Roya dans le parc du Mercantour et puis la classe ?
En plus, en 2020, ça a été une année un peu, une rentrée un peu surprenante avec des maîtres et maîtresses masqués, un protocole sanitaire qui oblige à laisser ses enfants partir. Mais elle avait toutes les armes pour pouvoir être à l'aise dans toute situation. Et donc, ça s'est fait tout en douceur, là aussi.
Donc, ça se passe bien et les grands espaces et la montagne ne lui manquent pas trop.
Disons qu'on continue. On continue cette aventure parce que on s'est retrouvé un peu embarqué dans une folie douce. Et on continue sans film, sans pression de devoir figer les instants forts, mais juste avec l'envie de les vivre. Donc on continue à suivre les loups, on continue à faire du pistage animalier ensemble, comme si le film continuait, mais sans le figer.
Ouais. Et le film est superbe, hein. Il est à découvrir sur France 3, jeudi prochain à 22h45, Naïs au pays des loups. Un grand merci à vous Rémi.
Merci beaucoup.
Et merci Vincent Munier d'être passé par notre bivouac. Je rappelle que La Panthère des Neiges sort ce mercredi au cinéma. Les loups ou la panthère, 2 films pour s'évader. Ce ne sera pas trop par les temps qui courent. Merci Vincent.
Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.